Chapitre 24e. L'enlèvement. 8 jours s'étaient écoulés. 8 jours d'anxiété pour Graphia. Eugénius n'avait paru chez elle qu'une ou deux fois, aux heures de réception commune. D'un autre côté, Adon lui apprenait que Eugénius allait tous les jours à Sainte-Sophie pour y voir Gunhilde, qui venait de temps en temps, mais pas régulièrement, et qu'il parlait quelquefois avec ses porteurs de chaises. Gunhilde visitait tous les jours Olympia, en mendiante, qui demande l'aumône céleste, comme elle disait à Mancius. L'impératrice laissait à Gunhilde toute sa liberté. C'était le seul moyen de gagner son cœur. Les pensées d'Eudoxia étaient absorbées par le prochain concile. Quelquefois, elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver une vive inquiétude en pensant aux suites possibles de ce concile. Alors elle se disait, comme pour calmer ses appréhensions, la conduite arbitraire de Théophile contre les moines d'Égypte et celle de Chrysostome contre ses suffragants et son clergé doit être examinée. Et si les plaintes sont reconnues, mal fondées, eh bien ce sera tant mieux. Il faut seulement veiller à ce que les mauvaises passions ne l'emportent pas. Si le cas se présente, il faut y mettre bon ordre. Mais il ne faut pas que nos seigneurs les patriarches apprennent que malgré leur position élevée et leur dignité spirituelle, ils ne pourront pas impunément blesser les lois de la justice. Aussitôt que Marsas apercevait que l'impératrice prenait des sentiments plus doux à l'égard de Chrysostome, elle ne manquait pas de raviver le feu de son animosité en lui rapportant les 1000 calomnies que ses ennemis mettaient en circulation et qu'elle lui donnait pour des réalités hors de doute. Depuis que Chrysostome avait défendu devant l'impératrice la cause du Tribunicator contre son frère le proconsul de Cilicie, la haine de Marsas ne connaissait plus de bornes. Elle savait remettre toujours en mémoire à l'impératrice cet incident, qui, joint à toutes les calomnies de fraîche date, attisait sans cesse le feu de sa colère. À l'heure où il venait ordinairement faire son rapport, Adon se montra avec Adonis devant Eugraphia. Ses yeux brillants de joie annonçaient qu'il avait quelque chose de nouveau et d'extraordinaire à raconter. Mais sa mise négligée dérogeait à l'étiquette. Eugraphia n'y voulut voir que la preuve d'un empressement qui ne permettait pas au pauvre garçon de réparer les échecs que sa toilette avait reçus pendant ses 8 jours de course à travers les rues de Constantinople. « Eh bien, quelle nouvelle m'apportes-tu aujourd'hui ? » demanda-t-elle avec anxiété. « Le noble Eugénius a enlevé la noble demoiselle Gunhilde, » répondit-il d'un ton triomphant. « Mais je sais où elle est. » Eugraphia pâlit sous son fard et tomba demi-évanouie sur sa chaise longue. « Parle, clair, net et court, » dit-elle impérieusement. Quand le soleil fut sur le point de se coucher, je suis allé comme d'habitude dans l'avant-cour de Sainte-Sophie. Je me suis assis sous le portique derrière une colonne et je n'ai pas eu longtemps à attendre pour voir arriver le noble Eugénius. Il traversa la cour et entra dans l'église. Hier, la noble demoiselle ne vint pas. Aujourd'hui, elle est venue, portée dans sa chaise qu'elle a quittée dans la cour, et est entrée dans l'église. À peine y était-elle que le noble Eugénius sortit, s'approcha de l'un des porteurs avec lequel il avait déjà parlé quelquefois, et puis rentra dans l'église. Il y avait tant de monde qui allait et venait à travers la cour, que de l'endroit où j'étais caché, je ne pouvais bien voir la chaise. Je me levai, je quittai le portique et me mis à marcher dans la cour. Ce fut pour mon bonheur. Les chaises allaient et venaient. La cour était traversée par une foule de gens qui sortaient de l'église. Il y eut un moment de lutte, pendant lequel je vis très distinctement que celui des porteurs avec lequel le noble Eugénius avait parlé levait le bras en l'air. Et puis, tout d'un coup, je ne sais comment, il disparut avec ses camarades. Au même instant, 6 autres porteurs, habillés comme les premiers, prirent la place de ceux-ci. Pendant que je me demandais ce que cela pouvait signifier, le noble Eugénius sortit une autre fois de l'église. Il regarda dans la cour et laissa voir une joie très vive en constatant ce changement de porteur. Puis, sans leur dire un mot, sans leur faire aucun signe, il alla sous le portique et s'y promena en jetant souvent des regards inquiets du côté de l'église. J'étais moi-même sur les épines, parce que je ne voulais perdre de vue ni le noble Eugénius, ni la chaise, ni l'entrée de l'église. Par bonheur, la noble Gunhilde ne tarda pas à sortir, voilée comme toujours. Elle monta dans sa chaise, qui s'éloigna d'un pas rapide. Mais moi, en courant, en sautant, et de temps en temps en ralentissant le pas, je la suivis à travers les grandes et les petites places, à travers les rues et les ruelles, si bien que je fus étonné de trouver la ville de Constantinople si grande et si étendue. Quelquefois je me retournais, mais je n'ai jamais pu voir le noble Génius. Enfin la chaise s'arrêta devant une maison sans apparence. La porte s'ouvrit aussitôt pour lui livrer passage. Justement en face se trouve la boutique d'un confiseur. Cela m'était très agréable. J'achetai quelques gâteaux, je m'assis contre le mur de la boutique, et je me mis à manger sans quitter des yeux la porte de la maison où la chaise était entrée. La nuit venait. Enfin le noble Génius arriva à pas précipités. Il frappa vivement à la porte et disparut aussi dans la maison. Maintenant je voulais accourir ici sans perdre un instant. Mais j'aperçus un garçon de mon âge, mal habillé, qui passait dans la rue et regardait très curieusement la boutique du confiseur. Je courus à lui et, lui présentant mon dernier gâteau, « Voudrais-tu le manger ?» lui dis-je. « Assurément, » dit-il. « Eh bien, tu l'auras. Et tu en auras trois fois plus, » lui dis-je. « Seulement à une condition, c'est que tu ailles t'asseoir là-bas près de cette porte, que tu y attendes que je revienne, et que tu me racontes qui est entré et sorti. Veux-tu faire cela ?»« Je veux bien, » dit-il, « pour avoir des gâteaux, afin que je puisse une fois manger tout à mon aise, car il y a bien longtemps que j'en ai envie. » « Conclu, attends-moi, » lui dis-je. Je le conduisis à son poste et lui donnai le gâteau. C'était surtout pour moi que je l'installais à cet endroit. Car si j'y retourne, me suis-je dit, que la boutique du confiseur soit fermée et que tout soit dans les ténèbres, je ne pourrai peut-être retrouver la maison. Mais le garçon me reconnaîtra tout de suite pour avoir des gâteaux. Je suis donc parti bien tranquille et me voilà. « C'est bien, Adam, tu as bien fait ton devoir. » dit Eugraphia. « Fais-toi donner un plein panier de gâteaux. Mais sois prêt à m'accompagner. Ma chaise, Adonis. Je vais chez le préfet. Mais donnez les ordres tout bas pour que personne dans la maison ne sache rien. Peut-être la chose s'arrangera-t-elle sous le voile de la nuit, grâce à ta vigilance, petit Adon. »